C'est l'heure de notre chronique BD à Choc FM avec Serge Paul. Ça va bien?
Oui, ça va bien, toi, Maud?
Oui, ça va super bien. Aujourd'hui, on fait ça un peu différemment. En fait, ce qui va se passer, ben moi, je me posais des questions sur la BD. Donc, je me suis dit, ben pourquoi ne pas avoir recours au savoir de Serge Paul pour qu'il réponde à ces questions-là? Donc, Serge, t'es prêt?
Eh ben c'est super. Je pense que t'es pas la seule à te poser des questions. Donc, les gens vont être contents de connaître tes questions à toi.
Exactement. Donc, ben premièrement, moi, ce qui m'intriguait, ben c'est le processus de création d'une BD. Comment ça se passe? Est-ce qu'on choisit l'histoire en premier? Est-ce qu'on choisit nos personnages avant tout? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier si on veut se créer une BD?
Alors, c'est une super question. Je pense que si on débute dans une bande dessinée et qu'on a des talents de dessinateur, il faut d'abord avoir une histoire. C'est un petit peu comme un film. Quand il y a un scénario qui est écrit et que le scénario est bien ficelé, on le donne à un metteur en scène et à un caméraman et puis eux, ils vont mettre ça en image. Bah, c'est pareil pour la bande dessinée. Si vous débutez et que vous avez une super histoire, après vous donnez votre histoire à un dessinateur ou alors vous êtes vous-même un dessinateur et c'est à vous qui allez créer en fait les prises de vue de certaines parties de l'histoire et puis qui allez mettre en scène votre histoire en la mettant en image en fait au lieu de la mettre en scène comme un metteur en scène de cinéma. Maintenant, si vous êtes un peu plus professionnel, entre guillemets, vous avez plus de bouteilles, et que vous avez des super personnages sous la main, comme Spider-Man, ou comme Sherlock Holmes, ou comme des personnages vraiment très forts, qui même en n'ayant pas d'histoire, ils ont déjà, par leur nom, une histoire derrière eux. Si on fait une histoire de Superman, ben il a déjà tellement d'historique derrière lui, ou Sherlock Holmes, tellement d'historique derrière lui, qu'on n'a pas besoin d'une histoire de départ, on va partir d'un personnage. Donc c'est vraiment ce même processus-là qui va se passer dans les bandes dessinées. Mais le mieux, dès le départ, ce qui fonctionne le mieux, c'est effectivement d'avoir une superbe histoire et de pouvoir la donner à un beau dessinateur.
Puis après ça, bon, là, on a notre histoire en main et tout. Il doit quand même y avoir des types de BD, des grandes familles. Je sais pas comment on fait pour déterminer ça. Est-ce que c'est avec l'histoire qu'on le classe dans une telle catégorie ou encore avec les images?
Je pense que la BD se classe elle-même, entre guillemets. Si on a une histoire de crime, ça va être une BD policière. Si on a une histoire un peu enfantine, ben ça va être une BD d'enfant. Si c'est une histoire avec des super-héros, ben ça va être des comics, comme on en trouve partout. Il y a des BD biographiques, il y a des gens qui parlent de leur histoire aussi, comme s'ils écrivaient un livre. Ben, au lieu de l'écrire avec des mots, ils vont la décrire avec des images. Tout à l'heure, je vais vous parler d'une BD québécoise où, en fait, le dessinateur lui-même a décidé de faire un carnet de voyage. Il y a souvent des gens qui écrivent des diaries, je trouve plus le terme en français.
Des journaux intimes.
Des journaux intimes, voilà, merci. Ben, un journal intime peut être fait en BD au lieu de le faire en mots. Donc, ça dépend vraiment de l'histoire que tu veux raconter. Et puis, finalement, par la suite, ça va être classé dans certains thèmes. Maintenant, la culture aussi est super importante. Si tu vas au Japon, beaucoup des histoires que tu vas raconter vont tourner autour du manga. Une histoire, par exemple, que tu as en tête ici au Canada, si tu la donnes à un dessinateur japonais, il va te la dessiner complètement différemment ou la présenter complètement différemment que si tu la donnes à un dessinateur québécois ou un dessinateur allemand ou un dessinateur africain. Parce que beaucoup de gens vont avoir leur culture aussi derrière eux pour pouvoir faire les dessins. Donc c'est super important aussi de soit choisir son bon dessinateur ou soit de laisser cours à la culture du dessinateur en question et puis de créer le style en fait de BD qui l'intéresse.
Puis moi, je me demandais finalement, est-ce que l'arrivée de la technologie, ça a modifié la façon de faire la BD? Parce que ça doit pas être pareil comme en 1950, en 2015.
Oui, non, mais t'as tout à fait raison. Ce qui se passe dans la production d'une BD sur papier, il y a trois principaux personnages, entre guillemets, dans la création. Il y a, comme j'ai dit, l'auteur, celui qui vient avec l'histoire. Il y a le dessinateur. Et puis il y a le coloriste. On parle très rarement des coloristes, mais il y a certains dessinateurs qui ne travaillent que avec certains coloristes spécifiques. Et donc dans les années 50, comme tu dis, bah c'était tout fait à la main. On faisait la couleur à la main. Et donc parfois il y a certaines couleurs qui n'étaient pas bien faites et des personnages avaient les mêmes couleur que le décor derrière, mais c'était parce que le coloriste a peut-être était pas très 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 concentré, ou il y a eu un problème d'impression. Donc c'était très très dépendant des machines à impression et dépendant du coloriste. Juste pour un petit exemple par rapport au coloriste, si tu trouves une bande dessinée d'un certain Loisel, L-O-I-S-E-L, qui fait beaucoup de bandes dessinées sur les personnages de fantasy, il a refait Peter Pan récemment, il a fait tout un chose aussi sur des mondes perdus avec des gobelins, des choses comme ça, c'est sa femme, la coloriste. Il veut pas travailler avec personne d'autre qu'avec sa femme. C'est super beau, c'est super romantique.
Wow, tellement.
Ouais, mais voilà, donc c'est toujours elle qui colorie. Et de nos jours, en fait, on utilise l'ordinateur pour colorier, par exemple. Et un certain personnage, on va lui attribuer une couleur spécifique et on va dire à l'ordinateur, dès qu'il y aura ce personnage-là, on veut toujours la même couleur pour ce personnage, on veut toujours la même couleur pour certains décors. Donc les couleurs restent plus facilement. Donc ça a changé beaucoup. Comme je t'ai parlé aussi la dernière fois, on peut publier autrement que sur papier. On peut publier sur Internet maintenant pour faire des BD. La dernière fois, je parlais de BD qui étaient faits avec des GIFs. Donc c'est des
images animées.
Merci beaucoup. Heureusement que t'es là pour me dire comment parler français. Non, exactement, des images animées. Donc c'est tout bête, c'est comme du dessin animé, mais c'est trois images ou quatre images qui se suivent et qui se répètent. Mais ça permet de donner un suivi ou une animation, une petite animation à la bande dessinée, mais qui reste la bande dessinée, qui reste pas de l'animation pure et dure comme on voit sur un écran de cinéma ou un écran de télévision. Donc ils utilisent beaucoup ça. Et excuse-moi de continuer là-dessus parce qu'il y a un auteur que j'adore qui s'appelle Marc-Antoine Mathieu. Et lui, il révolutionne non seulement la technique bande dessinée, mais il n'utilise pas l'ordinateur. Il va utiliser même le papier dans la bande dessinée pour l'intégrer à l'histoire. Il y a une de ces histoires qui s'appelle L'Origine, et dans L'Origine, il y a une des pages, elle est trouée. La page est trouée, et je te dis pas pourquoi, mais dans l'histoire, le trou est super important et sert à l'histoire. Le trou en fait. Donc pour te dire un petit peu l'extrait, le personnage principal de l'histoire découvre qu'il est dans une BD lui-même, qui est un personnage BD et qui a un auteur qui le dessine. Et en fait, on lit l'histoire et tout d'un coup, en tournant les pages, on voit qu'il y a un personnage qui répète la même chose qu'il a dit deux pages avant. Et le personnage lui dit « Ah, oh là là, il vient de se passer quelque chose de bizarre, pourquoi je répète ça ?» Et il réfléchit et dit « Ben voilà, il y a dû avoir un trou dans mon histoire et on est en train de lire ce qui s'est passé sur la page d'avant parce qu'à cause du trou, je répète ce que j'ai dit à la page d'avant. »
Wow! Ouais, c'est vraiment intelligent. Là. Il a vraiment fallu qu'il se penche sur le concept et qu'il pousse ça au maximum. Là.
Exactement. Alors écoute, je te jure, moi, les auditeurs, si vous trouvez des bandes dessinées de Marc-Antoine Mathieu, vraiment, jetez-vous dessus parce qu'il fait des choses. Mais une des dernières BD, c'est une BD qui commence et qui finit au milieu de la BD seulement. Elle finit pas à la fin. On peut lire l'histoire à l'envers de l'autre côté et on peut lire l'histoire à l'endroit de l'autre côté et les deux histoires se retrouvent à la fin et la fin de la BD est dans la page de milieu. Donc voilà, je pense que la technologie aide, mais l'innovation et l'imagination des auteurs et des dessinateurs, je pense que ça restera toujours le plus important et rien ne remplacera l'homme par rapport à la machine.
Wow, très bien dit, vraiment. Puis, il y a un auteur qui est un Québécois qui a attiré ton attention dernièrement, qui a publié une BD dont tu voudrais nous parler, qui porte le nom d'une adresse à Montréal.
Exactement. En fait, j'ai découvert cette BD dans mon nouveau coin secret que j'adore, qui est plus secret puisque j'en parle.
À toutes les chroniques.
C'est ça, pratiquement, c'est ça. Donc, c'est le Rainbow Caterpillar Bookshop. Et c'est en fait une BD qui s'appelle 184 rue Beaubien, qui est une adresse à Montréal. Et en fait, c'est la BD qui a été écrite et dessinée par un Français, en fait, qui s'appelle Cyril Douaneau, comme le photographe des années 30, les belles photos noir et blanc. Et ce certain Cyril Douaneau, en 2008-2009, il a laissé tomber la France et il est venu s'installer à Montréal. Et en fait, il raconte toute son installation à Montréal. Tout ce qu'il a vécu en arrivant ici, c'est super, comment dire, naïf au niveau des dessins. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'amour du Québec, et beaucoup de, comment dire, de moquerie et de regret par rapport aux autres Français qui se plaignent toujours que le Québec, c'est pas comme la France. Ben, si le Québec, c'est pas comme la France, il faut rester au Québec. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui sont super intéressantes. Ce Cyril Doineau, il fait des bandes dessinées un peu comme des carnets de voyage, comme je disais au départ. Donc, tout ce qu'il va dessiner, c'est pour ça qu'il a appelé ça 184 rue Beaubien, se passe autour du voisinage dans lequel il a vécu et dans lequel il vit, en fait, à Montréal. Et les gens qu'il rencontre, les amis qu'il se fait. Et c'est intéressant parce qu'il, comme c'est un carnet de voyage, il a la possibilité de pas utiliser les mêmes techniques que d'habitude. Donc, il n'y a pas de cases comme dans une bande dessinée. C'est vraiment des dessins qui sont écrits sur la page, mais ça suit quand même une histoire. Même si c'est pas rangé correctement dans case par case, on arrive à suivre l'histoire quand même. Et c'est très très fluide et c'est très très agréable à lire. On en sort vraiment très très léger. On aurait aimé un tout petit peu qu'il y ait un peu plus de prise de parti par rapport à son arrivée, mais en fait la neutralité du ton qu'il emploie est très agréable, et puis ça donne envie de gober la bande dessinée sans jugement et sans a priori. Donc vraiment, c'est une belle curiosité à découvrir, et on aimerait bien savoir où est-ce qu'il en est maintenant ce cher Cyril Doineau dans son installation à Montréal. Donc c'est une très très bonne, très très belle bande dessinée que vous pouvez trouver encore au Rainbow Caterpillar Bookshop, et ça s'appelle donc 184 rue Beaubien.
Moi, je parie que ça t'a pas pris trop de temps à la lire, cette BD-là.
Non, c'est ça prend pas beaucoup de temps, et puis ben moi j'arrive de France, donc ça m'a rappelé plein de souvenirs, même si j'ai pas déménagé au Québec, j'ai déménagé à Toronto directement, mais voilà, je veux pas refaire la chronique des nouveaux arrivants sur Choc FM, mais ça peut effectivement la recouper, parce qu'il y a plein de petits bons souvenirs qui nous rappellent notre arrivée aussi en tant qu'immigrant.
Ben merci beaucoup Serge Paul, et à la prochaine.
Merci à toi, et tes questions étaient excellentes, Maude, merci beaucoup.
Merci, salut.
Bye-bye.